Échec au temps par Rudyard Kipling. Dans le tour du monde en 80 jours, Phileas Fogg a gagné 24 heures parce qu'il allait vers l'est au devant du soleil. Cette notion scientifique, glanée dans Jules Verne, avait singulièrement frappé l'esprit du jeune Alcide Brizard. Elle provoquait en lui un trouble secret, dont il ne s'expliquait pas la nature. Plusieurs semaines, il la rumina. Mais comme elle n'avait pas alors d'application possible pour l'écolier, elle finit par tomber au bric-à-brac de ces documents sans utilité immédiate qui bourrent les soutes de notre subconscient et qui attendent d'être, par les circonstances adéquates, rappelés à la surface et transformés en munitions dans la lutte pour la vie. Alcide Brizard grandit, prit place dans les rangs d'une quelconque administration, est devenu tout ce qu'il y a de plus français moyen et petit bourgeois, vivotat, routinier célibataire, avec pour seule lumière à l'horizon l'espoir de la retraite. Mais un beau jour, comme il venait d'avoir 32 ans, une enveloppe à entête notariale lui apporta son destin. Il héritait, oire unique et inattendu, de l'oncle Mathias, parti jadis pour l'Australie et oublié depuis longtemps, mais qui ne l'avait pas moins fait à Melbourne, dans les pâtes alimentaires, nouilles et macaroni, une fortune copieuse, évalué par le tabellion à 1 200 000 $, autrement dit 30 millions de francs dépréciés. Cet héritage, en tombant à l'improviste sur le crâne d'Alcide Brizard, eut pour double résultat de lui causer de terribles insomnies et de révéler dans son mécanisme psychique une petite fêlure, une minime tare, qui avait passé inaperçue dans la vie à basse tension qu'il menait précédemment. Si la soudaine possession de la richesse lui ôta le sommeil, ce ne fut pas en lui inspirant la crainte des voleurs en chair et en os, comme il advint au financier improvisé du bon La Fontaine. On ne garde plus aujourd'hui son magot dans une armoire. Il y a les banques, les caves blindées, les chèques barrés, toute la machinerie subtile et incrochetable de la finance moderne. Non. Ce qui empêchait notre nouveau riche de dormir, c'était la crainte de celle qui vient comme un voleur, une peur de la mort abominable et toute nouvelle chez lui. Jusque-là, rond de cuir médiocre et résigné, la pensée de sa fin ne l'avait guère troublé sérieusement. Il ne l'avait jamais réalisé, senti. À vrai dire, il n'y pensait pas. Et sa vie fadasse avait si peu de prix qu'il ne lui importait guère de la perdre. Mais du jour où il se vit possesseur de nombreux millions, il eut l'effroi de mourir avant d'avoir joui de sa richesse. Ce n'était pas l'horreur romantique du cadavre et des vers du tombeau, mais une révolte exaspérée qui le hantait, crispée, tordue par l'épouvante de n'être plus là et de laisser son argent. L'autre vie, hélas, M. Brizard n'y croyait que fort vaguement, et du reste, un multimillionnaire ne se soucie pas de l'autre vie, mais bien de l'existence présente, la seule où les millions aient cours. La tyrannie de cette hantise, si puissante qu'elle l'accaparait jusqu'au milieu des plaisirs qu'il tenta de goûter par acquis de conscience, les lui empoisonnait. À l'idée que chaque heure, chaque seconde, le rapprochait irrémissiblement de sa fin, sans que rien ne pût la retarder, il se sentait glacé, anesthésié, anaphrodisié. Un vertige le prenait, la fêlure s'écartelait soudain en un abîme béant, comme le gouffre de Pascal. Une nuit qu'il était au ras-mort, à boire mélancoliquement du champagne avec une poule de luxe, dont les propos idiots l'écœuraient, il entendit à la table voisine de jeunes hommes, des officiers de marine apparemment, qui parlaient du saut de date. Comme nous faisions route vers l'est, alors, des soutes du subconscient où était emmagasiné tout le stock des notions inutilisées, jaillit en Alcide Brizard le souvenir de son adolescence. En faisant le tour du monde vers l'est, Phileas Fogg a gagné un jour sur 24 heures. Les officiers de marine l'éclairèrent de bonne grâce sur les conditions dans lesquelles se réalise nautiquement le gain. Pour éviter aux navigateurs la mésaventure de se tromper de date, il existe aux antipodes, aux 180 degrés méridien, un fuseau horaire dit de l'île des Pins ou de Futuna, où l'on a deux manières de compter le temps, deux dates différentes, l'une pour les navires allant vers l'ouest, l'autre antérieure d'un jour pour ceux qui vont vers l'est. Ainsi, arrivant de l'ouest le 1er janvier, mettons, si vous continuez vers l'est, vous revenez au 31 décembre. Vous rentrez dans la veille du jour où vous étiez, comprenez-vous? il n'écouta pas les explications qui suivirent. Un chant triomphal l'emplissait, une ivresse, moins du champagne que de la facilité merveilleuse qui s'ouvrait devant lui. À volonté, se procurer 24 heures de vie en plus et toutes les possibilités que renferment 24 fois 3600 secondes. Un jour sur 80, ce n'est guère, et cependant c'est énorme. Pour qui a la rage de vivre? De plus, le programme est marché depuis le temps où Jules Verne écrivait le tour du monde. N'était-ce pas en 35 jours que tout récemment des journalistes danois avaient bouclé le tour de la planète? Un jour sur 35, du bon 3%, cela devenait appréciable. Et nul doute qu'en y mettant le prix, on ne put abaisser notablement ce temps record. Muni de son carnet de chèques et de sa valise, dans la 32e année de son âge, M. Brizard se mit en route. Le sort le favorisait. On venait d'ouvrir à l'exploitation le chemin de fer Bagdad-Karachi, et il fut l'un des premiers à prendre son billet direct de Paris à Calcutta. 13 jours de train. Ce qui, entre parenthèses, ne vaut pas grand-chose pour les fêlures, même légères. Mais les derniers doutes que pouvait garder son subconscient furent levés. Le jour où il assista, pour la première fois durant sa traversée du Pacifique, au saut de date, en franchissant le fameux 180 degrés méridien. Il allait vers l'est, il rétrograda dans le temps, il rajeunit d'un jour et inscrivit le gain à son actif. Une fois de plus, le commissaire Dubord, un garçon charmant, essayait de lui faire comprendre le mécanisme de l'opération. Mais ce petit problème si simple des fuseaux horaires avait pour Alcide Brizard quelque chose de toxique. Son énoncé suffisait à mettre en sueur notre homme qui battait la breloque tout à fait dès qu'il essayait de le résoudre. Chaque fois qu'il y pensait, il était pris de vertige, le cerveau angoissé, le raisonnement balbutiant, l'intelligence bloquée. Mais que lui importait le mécanisme du saut de date? Ce saut avait lieu. N'était-ce pas tout ce qu'il lui fallait? Il acheva de boucler le globe par l'Amérique et fut de retour au bout de 30 jours à Neuilly, chez lui, c'est-à-dire dans le joli petit hôtel 18e siècle acheté après l'héritage. Il retrouva la personne de confiance promue par lui au rang de gouvernante et il la stupéfia en lui annonçant un nouveau départ pour le lendemain. À contre-cœur d'abord, et luttant contre les répugnances léguées par son passé de rond de cuir et ses atavismes petits bourgeois, il se livra à l'intérêt vital, mais en quelque sorte abstrait, qui le poussait vers l'est. Jeté dans le tourbillon de la vie errante, il devint le voyageur pur, un de ces hommes colis qui se transfèrent du train au bateau et de l'auto à l'avion, avec parfois quelques heures d'arrêt dans un hôtel, qui estampe d'une étiquette prestigieuse de plus la valise de cabine en peau de porc. Cette folie moderne de la bougeotte, la dromomanie, comme disent les psychiatres, cette frénésie de déplacement, à des vitesses toujours plus grandes, qui caractérise notre ère industrielle, avait trouvé en lui son expression intégrale en même temps que sa justification et sa raison d'être. Avec un mépris souverain, il considérait les autres dromomanes, ses frères inférieurs, trépidants d'impatience stérile, ces idiots qui, en faisant le tour du monde à eux et à Dia, reperdent par un trajet vers l'ouest ce qu'ils ont gagné en allant vers l'est. Mais il n'avait garde de révéler sa découverte. Il tremblait même qu'un jour le secret libérateur ne fût retrouvé par un autre que lui. Et ce n'était pas seulement pour garder ce privilège qui le faisait ricaner d'une égoïste joie d'avare. Si l'emploi de son merveilleux système se généralisait, craignait-il, ce serait l'embouteillage sur les lignes de transport, l'exode en masse vers l'est de tous les riches errants, un formidable handicap à la poursuite de l'immortalité. 2 années s'écoulèrent dans ce genre de sport. Alcide Brizard continuait sa course vers l'est dans l'espoir de gagner toujours du temps et de le capitaliser pour mieux jouir plus tard de ses ors. On ne voyait plus que lui sur les lignes ferroviaires, maritimes et aériennes, et on avait fini par le connaître. On l'appelait le juif errant. Lui-même, pour dépister les curiosités tout en les satisfaisant et répondre à la question « Que faites-vous donc à circuler ainsi tout le temps ?», il avait trouvé une formule sibylline dont l'exactitude cachée mais impénétrable l'amusait énormément. « Mais je gagne ma vie, cher monsieur, je la gagne, en attendant d'en profiter. » Plongé dans les horaires et les prospectus des compagnies rivales, toujours aux aguets d'un trajet plus rapide, s'informant par TSF en cours de route au départ d'avion, Il essaya successivement toutes les lignes de paquebots de l'Atlantique et celles du Pacifique, qu'il adoptait ou délaissait selon les commodités des communications avec les services ferroviaires du continent nord-américain ou de l'Asie orientale. Il prit passage à bord du comte Zeppelin lors du premier retour d'Amérique en Europe. Fort heureusement pour lui, il rata d'un jour le départ du dirigeable anglais R101 vers les Indes. Malgré les péripéties de ses changements d'itinéraire, il commença à se mécaniser dans ses routines ambulatoires au bénéfice de la fêlure qui cessait de s'élargir lorsque cette salutaire torpeur mentale fut secouée, électrisée par de nouveaux espoirs formidables. Les journaux annonçaient comme prochaine la réalisation de la fusée astronautique. Du coup, la pression de ses rêves remonta de 20 atmosphères. Il en avait des palpitations, et la fêlure s'entr'ouvrait sur des profondeurs phosphorescentes quand il songeait aux jours futurs où le wagon fusé, marchant à 1666 km à l'heure, ferait le tour du globe en un jour. Alors, oh alors, ce serait le triomphe, le gain d'un jour par jour, du 100%. À la fin des 24 heures écoulées, en traversant le fuseau horaire de l'île des Pins, il reprendrait par l'autre bout la journée d'où il sortait. Il la recommencerait heure par heure, minute par seconde. Ce serait réalisé le vieux mythe du serpent qui se mord la queue. Le temps s'arrêterait, il cesserait de vieillir, il entrerait tout vif dans l'éternité. Mais verrait-il cet avenir? Quand serait-ce? Bientôt, affirmaient les savants. Bientôt. Ah! Pourvu que cette invention et sa mise au point commerciale ne tardent pas trop. Serait-ce dans 20 ans, dans 10? Même dans 5 ou 6, c'était bien loin. Quel âge aurait-il alors? Serait-il encore en état de profiter de la vie? La poursuite du temps était tuante. Il commençait à se sentir très fatigué. Il n'était pas seul à s'en apercevoir. Plusieurs contrôleurs des wagons-lits lui trouvaient mauvaise mine. Et 2 pilotes de l'Imperial Airways lui avait fortement conseillé de voir un médecin, s'il allait mourir avant. À son 30e jour, un mois d'existence gagné pour plus tard, effectué en 22 jours seulement, grâce à un emploi libéral de l'avion, Alcine Brizard, dans un élan de triomphe irrésistible, à la fin du dîner qu'il partagea dans le petit hôtel de Neuilly avec la gouvernante de confiance, eut la fatale inspiration de lui révéler, sous le sceau du secret, ses espoirs géants. Il était déjà loin, quand cette femme de tête et de ressources alla prévenir le notaire qui avait annoncé l'héritage. Il restait encore pas mal de millions, et les neveux et nièces d'Alcide attendaient impatiemment leur tour de les utiliser à des choses, eux, intelligentes. La poursuite fut longue, mais il était relativement facile de pister le juif errant, et d'ailleurs, les temps étaient arrivés, grâce aux perspectives du wagon-fusée, où la petite fêlure, devenue suffisamment grande, allait séparer tout à fait du monde contemporain l'intellect d'Alcine Brizard. Lorsque l'employé du notaire rattrapa en Hawaï l'oncle Dromoman, ce dernier avait déjà commencé à recevoir la récompense de ses peines, dans un joli petit pavillon, succursale lointaine de Bedlam. Là, en vue du Pacifique et des palmiers agités par l'Alysée, le nouvel immortel s'appliqua à suivre les conseils si judicieux du docteur qui lui permettait d'anticiper avantageusement sur les réalisations peut-être encore lointaines de l'astronautique. Ce génial savant lui avait procuré une plaque de tôle en acier éternite qui annulait la gravitation terrestre. Il suffisait donc de se balancer au-dessus de cette tôle dans un fauteuil suspendu aux poutrelles du plafond pour laisser paisiblement tourner sous sol le globe terrestre. Inutile de circuler désormais. C'est la Terre elle-même qui s'en charge, avait démontré le thérapeute. Alcine Brizard, les yeux caves mais illuminés d'un éclat surnaturel, un verre de cocktail à portée de la main, suit sur son chronomètre la course de l'aiguille des secondes qui s'escrime en vain contre l'éternité dans laquelle il est entré. Une inquiétude lui est venue dernièrement qu'il a soumise au bienveillant docteur. « Puisque la Terre tourne sous moi, pourquoi ne vois-je pas le soleil immobile dans le ciel ?» On a remédié à cette petite lacune en installant un superbe sunlight de 500 watts dans la pièce hermétiquement close et à présent matelassée où il jouit de la vie. Sa pension, cocktail en sus, coûte aux nouveaux héritiers la bagatelle de $100 par mois. C'était Échec au temps par Rudyard Kipling.